Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Plus je prenais conscience de ce qu'était ma sexualité, plus ce qui m'était renvoyé ne collait pas. Et donc, j'ai eu des attaques de plus en plus fréquentes et je me suis un peu recroquevillé à l'intérieur de moi. Et ce personnage, éventuellement, si je m'en suis constitué un, c'était un personnage de « je suis comme tout le monde ». Je suis comme les autres copains, donc ils me racontaient leurs histoires. Alors j'ai rencontré telle fille, on s'est embrassé pendant 20 minutes, machin, etc. Et moi, je me disais, oulala, oulala, je suis de plus en plus déconnecté de tout ça.
Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Bonjour, je m'appelle Bernard. J'étais dans la communication, marketing et publicité. Et maintenant, je suis coach professionnel et j'accompagne les gens et les entreprises à la recherche de leur pourquoi.
Donc Bernard, on va retracer ton histoire ensemble aujourd'hui. On va commencer par ton enfance et l'endroit où tu es né et tu as grandi. Toi, tu es né en Tunisie. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment était ton enfance là-bas en Tunisie ?
Oui, je suis né en Tunisie, effectivement. Et mon enfance a été une enfance plutôt heureuse, avec... beaucoup de contacts avec le pays, la nature. Mes parents étaient des gens très curieux, qui aimaient bien profiter du contexte. Et donc, moi, j'ai fait des études tranquilles, pas eu d'événements particulièrement compliqués. Donc, tout ceci m'a amené jusqu'à mon bac. Et là, je suis parti en France, à l'âge de 17 ans et demi.
Lorsque tu étais enfant, tu m'avais dit que tu avais été élevé comme un fils unique. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu penses ça ? Est-ce que tu as eu un traitement particulier avec tes parents ?
Alors, vis-à-vis de mes sœurs, ce serait un peu délicat de dire que j'ai été élevée comme un fils unique, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé parce que nous sommes très éloignés en termes d'âge. Il y a 9 ans d'écart entre ma sœur aînée et moi et entre ma sœur cadette et moi. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai été élevée un peu comme un enfant unique. D'autant que ma première sœur était ma demi-sœur. Donc ça crée forcément des petites différences, même si on était traités tout à fait pareil. Il n'empêche que, je ne sais pas si c'est la culture méditerranéenne, mais en tout cas, j'ai fait l'objet de beaucoup d'attention.
Et justement, les attentions, c'est-à-dire avec ta maman notamment, elle te chouchoutait par exemple ?
Disons que ma mère faisait très attention à ce que je pouvais faire, dire, penser. Et donc, j'étais quand même assez sous l'œil de la caméra, un peu comme maintenant. Et donc, elle était très attentive à mon développement, mais ça n'excluait pas un certain contrôle.
Ta maman, enfin tes parents, mais surtout ta mère, ce contrôle, c'est aussi qu'ils voulaient te conditionner un peu à faire des grandes études. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce modèle qu'ils avaient imaginé pour toi ?
Ben, il faut voir que dans le contexte de la Tunisie des années, la fin des années 60, tout avait changé et donc il fallait que la famille se fasse une déviation globale, c'est-à-dire se réinventer une nouvelle vie dans un monde qui avait changé. Et donc ça voulait dire eh bien rentrer en France ou aller en France, pour moi en tout cas, qui était né là-bas, et se créer une nouvelle vie. Donc effectivement, il y avait un modèle. Que de tous mes camarades, toutes les personnes, y compris que, quelles que soient les familles, mes camarades d'école, de quelque nationalité qu'ils soient, il était entendu que à la fin des études secondaires, ils allaient faire très vraisemblablement leurs études en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans des endroits prestigieux, si ils avaient des bonnes notes, pour dire les choses simplement, et pour avoir une carrière plus ouverte, parce que les possibilités sur le marché local n'étaient pas infinies. Donc, suivant le type de métier qu'on allait avoir, et si on avait des bons résultats à l'école, ben, il y avait la même sélection naturelle de l'enseignement qu'il y a en France, sachant que moi, je vivais dans un lycée français, il y avait forcément un tri, je dirais, qui se faisait naturellement, proportionnellement aux conditions du pays. C'est comme si j'étais dans une des meilleures écoles de Paris, de France. Donc évidemment, c'est toute proportion gardée, mais il y avait forcément une sorte de sélection qu'on connaît tous. Donc mes parents, désireux que je m'en sorte le mieux possible dans la vie, bah, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ils se sont probablement sacrifiés pas mal pour qu'on ait tous les enfants, on ait le maximum pour pouvoir faire des bonnes études. Et il y avait quand même cette envie que le fiston bah, brille parce qu'il avait l'air intelligent et il fallait qu'on en fasse quelque chose.
Et est-ce qu'ils imaginaient un métier assez précis pour toi, par exemple, ou...
Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme plan pour moi, mais j'ai entendu très tôt, et on me l'a rapporté, qu'il fallait que je fasse une grande école. Donc il y avait grand dedans. Il fallait que ce soit important. Parce que je pense que par rapport au défi de cette déviation-là, c'était important de mettre la gomme, parce qu'il y avait quand même la Méditerranée à franchir, et aussi tout un contexte historique à transcender.
Et toi, justement, à partir de ce modèle un petit peu qui était imaginé, tu m'avais dit que tu t'étais créé un peu un personnage à partir de ça. Est-ce que tu peux m'en parler qu'est-ce que ça signifie? Comment tu pourrais l'expliquer?
Alors, pour repréciser ce que j'ai pu dire, je ne me suis pas inventé un personnage. C'est-à-dire qu'il y a un Bernard ben, qui a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il était bien à l'école, bon à l'école, bien, pas toujours. Il faisait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire il était bon élève, le meilleur élève possible. Maintenant, plutôt qu'à me créer un personnage, je pense que j'ai donné le change, comme on dit. Il fallait que je fasse ce qu'on me demandait de faire, donc je l'ai fait, parce que je m'entendais bien avec mes parents. Moi, j'étais simplement imaginatif, c'est-à-dire j'avais mon univers intérieur, et j'avais tendance à être un peu rêveur, un peu créatif dans mon coin, et effectivement, comme tout un chacun, j'avais ma vie secrète et le personnage que j'offrais à l'extérieur, c'était un peu ce qu'on me demandait d'être, c'est-à-dire l'enfant, entre guillemets, un peu parfait.
Et justement, dans cette vie secrète, toi, tu avais d'autres passions, tu avais d'autres envies de métier, notamment, tu m'avais dit, soit archéologue, soit un métier artistique. Est-ce que tu peux me parler de ça, m'expliquer qu'est-ce qui te plaisait un peu dans ces métiers quand tu étais petit?
Oui, alors tu as retenu que j'avais parlé de métiers que j'aurais pu avoir envie de faire comme archéologue ou des métiers artistiques. En Tunisie, il y a beaucoup de ruines. Et moi, tout ce passé, ce carrefour culturel, je trouvais ça très intéressant. Et en particulier les ruines romaines, que je trouvais géniales. Et donc, j'avais envie de devenir archéologue parce que j'ai toujours eu envie de découvrir des trésors. J'étais fasciné. Je me disais, est-ce que je vais trouver quelque chose de... Voilà. Bon, c'est un peu ridicule pour un enfant de dire, je vais trouver un trésor, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a ce sens qu'il y a peut-être quelque chose, un secret, quelque chose de caché, qui va nous être révélé. Et donc ça, c'est pas un métier vraiment, mais il y avait cette envie. Donc du coup, concrètement, c'était plutôt une activité d'être archéologue. Il y avait plein d'archéologues au 19e siècle qui faisaient ça pour la gloire. De là, on gagnait sa vie et payait sa cotisation, sa sécurité sociale et ses cotisations salariales, c'est autre chose. Donc effectivement, être archéologue. Et puis, il y avait tout l'aspect brio, glamour. Donc tout à l'heure, tu parlais de ce personnage. Ben, effectivement, ce qu'on me demandait d'être, c'était un petit garçon un peu petit prince savant, ce qui ne m'a pas toujours servi, parce que du coup, vis-à-vis de mes camarades, j'ai pu passer pour un peu prétentieux, puant, suffisant, ça m'a poursuivi. Mais en fait, on me demandait d'avoir l'air le mieux possible. Il fallait que je sois une super pub pour la famille, en quelque sorte. Donc, j'avais un intérêt artistique qui était, par exemple, les cailloux. J'adorais ramasser des petits bouts de cailloux qui me faisaient rêver parce que ça touchait au passé. Des petites mosaïques, des trucs qu'on voit parfois dans des ruines, ce qui agace complètement les gardiens qui veulent surtout qu'on ne touche rien. Mais c'était assez innocent. En revanche, l'envie, elle, était bien précise. C'était sortir de terre, sortir du secret quelque chose. Et donc, pour ce qui est du brio, il y avait le côté, je ne sais pas, les vêtements, les bijoux, les objets d'art. Et ça m'a toujours attiré. Il y avait tout ce qui était artistique. Je passais beaucoup de temps à créer des bijoux, à dessiner, à peindre, à découper. Et j'offrais ça à certaines personnes de ma famille. Et effectivement, tout l'univers créatif féminin m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai fait un peu de la chimie. Une fois, mon père m'a offert une boîte de chimiste. J'étais absolument enchanté. Ma mère était folle de rage parce que c'était « mais il va faire sauter la maison », etc. Donc, sur le côté art, j'ai beaucoup passé de temps à m'amuser, à faire des jeux de cubes, voilà, toutes sortes d'activités manuelles aujourd'hui, j'utilise beaucoup la méthode des intelligences et natures multiples. Et c'est vrai que l'intelligence corporelle fine, c'est quelque chose qui est développé chez moi, et l'intelligence visuelle graphique ou visuelle spatiale aussi. Donc, j'adorais fabriquer des petits trucs à caractère artistique, sans trop exagérer non plus. Je n'étais pas, en train de faire des choses extraordinaires, mais j'aimais ça.
Et ces activités artistiques, justement, que tu as qualifiées un peu de féminines, qu'est-ce qu'elle en pensait, ta famille, quand elle te voyait jouer avec ça ?
Bah, si tu veux, c'est par rapport au contexte des copains. En Tunisie, qu'est-ce qu'on fait quand on est un garçon ? On joue au foot. Et moi, je ne jouais pas au foot. Donc là-dessus, sur le côté sport de garçon, en fait, les activités étaient féminines parce que c'était ce qui était valorisé à la maison, tout simplement. Et comme ma mère était quand même assez... Je l'avais un petit peu gentiment sur le dos, paix à son âme, elle m'a donné tout ce qu'elle a pu. Mon père était formidable aussi. C'est juste que la culture, les valeurs féminines, ou ce qui pourrait y ressembler, en tout cas, on va dire, pas nécessairement l'univers costaud, on castagne, on fait la guerre, on joue aux cow-boys et aux indiens, on joue au foot, etc. Sans vouloir utiliser des clichés, assez communément, je dirais que la culture de ma mère, en tout cas, peu importe soit féminin ou masculin, en tout cas la culture de ma mère était un peu le modèle. Et mon père faisait autre chose, il était occupé à autre chose. Voilà.
Donc ils acceptaient un petit peu ces activités que tu avais ?
Totalement. En fait, ils s'en foutaient un petit peu, je crois. C'est pour ça que je vivais ma vie dans mon coin. Tant qu'il n'y avait pas de soucis, tant que je ne créais pas d'ennuis, tout allait bien. Et je n'ai jamais... J'ai jamais fait d'ennui. Je vois des enfants avec leurs parents, les parents s'arrachent les cheveux, des gamins qui font des 400 coups, etc. Alors moi, pas du tout. Moi, j'étais le petit garçon très sage.
Et je repars un petit peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure, un petit peu des grandes études et que l'objectif, c'était in fine de retourner en France. C'est ce que tu as fait finalement. Tu es reparti en France seul. Est-ce que tu peux m'expliquer quand est-ce que tu es parti, pour faire quoi, comment ça s'est passé, ton arrivée là-bas ?
Je suis parti en France après mon bac. Et donc, je suis allé à Paris pour mes études, pour faire une prépa. Donc, quand est-ce que je suis parti ? Ben, j'avais 17 ans et demi. Et je suis parti pendant l'été, dès que j'ai eu mon bac. Parce que il fallait que je m'installe, il fallait trouver un lieu pour crécher. Donc j'étais en prépa, en pensionnaire. Et donc je me suis retrouvé dans un environnement prépa. Et pendant 2 ans, j'ai préparé mes concours. Je ne les ai pas eu la première année parce que je n'étais pas un génie. Et puis j'ai eu la deuxième. Et j'ai finalement eu le concours de l'ESCP, École supérieure de commerce de Paris, maintenant qui s'appelle ESC Europe. Et j'étais très très content. Ça a été la grande joie. Donc voilà, j'ai quitté Tunis pour Paris, direct. Et ça a été un gros, gros, gros changement, oui. Mais que j'ai bien aimé. C'était pas facile, parce que la prépa, c'est dur, c'est que des études. Mais j'avais la chance folle d'avoir des parents qui s'étaient arrangés pour que mais les contraintes matérielles soient aplanies par rapport à des copains ou des copines qui étaient boursiers, qui avaient des tas d'autres trucs, même peut-être qui éventuellement travaillaient. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là et j'en sais gré à ma famille, ça c'est sûr.
Et en termes de culture entre ces deux pays, passer de la Tunisie à la France, est-ce que tu as remarqué des différences, des choses qui t'ont choqué, je ne sais pas ou
Est-ce que j'ai remarqué des différences entre Tunis et Paris ou entre la Tunisie et la France? Oui, bien sûr qu'il y avait beaucoup de différences. Alors, fondamentalement, j'étais dans un... C'était comme un nouveau monde, en fait. Parce que quand je rencontrais des copains qui vivaient en France et que j'avais 7-8 ans, ils me demandaient s'il y avait des chameaux dans Tunis ou des lions ou je ne sais pas trop quoi. Donc parfois, les gamins, ils ont des visions. Aujourd'hui, ça ne serait pas pensable parce que tout le monde a son téléphone, regarde des vidéos, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout déconnant d'entendre ça. Donc, en revanche, moi, de ce que je connaissais de Paris, qu'est-ce que j'avais? J'avais ma grand-mère qui me racontait comment en 1920, Paris, la ville lumière, donc avec des étoiles dans les yeux. Donc j'arrivais à Paris. Mais en fait, j'étais tétanisé parce qu'on m'avait dit « Oui, dans le métro, attention, tu vas être attaqué, ça va être terrible, etc. » Donc j'avais la trouille quand je suis arrivé à Paris de me faire, je sais pas, alpaguer dans le métro. Ensuite, il y avait la prépa, attention, le bizutage, tout le monde est là à te surveiller, et puis les gens vont piquer des paquets de copies, piquer les notes, enfin que ça allait être, je ne sais pas, c'est comme si je rentrais chez les, aux États-Unis, là, à West Point, et que j'allais vivre un enfer de préparation. Non, tout ça, c'était un mythe, et j'ai découvert... avec bonheur, la vie parisienne, comme un monde. Paris, pour moi, c'est plus qu'une ville, c'est une plateforme, en fait. Mais heureusement que je n'étais pas dans la vie parisienne pure et dure. En fait, ce qui a servi de lien, c'était mon environnement immédiat, le fait que je fasse des études. Ça m'a permis de m'acclimater, mais en ayant un cocon autour. C'est comme si demain, tu allais à New York et que tu connaissais zéro personne, mais que tu avais un super job. Donc, ta vie, c'est ton job. Donc, ton job, bah, tu es là-dedans, etc. Et petit à petit, tu commences à rencontrer des copains, des copines, tu te fais des amis, tu découvres la ville, etc. Progressivement. Donc, moi, ça a été, j'étais très sur des rails. Donc, la prépa, c'est des rails. Pas le temps de trop se poser de questions. On bosse, on bosse, on bosse. Mais quand même, de temps en temps, on sort un peu, on découvre des copains, des copines, et puis on découvre la vie. Parce que j'avais 17 ans et demi, j'étais hyper jeune. Et 17 ans et demi dans une famille très cadrée. Alors t'imagines, t'arrives à Paris, waouh.
Oui, justement, je vais rebondir là-dessus, parce que tu m'avais dit que la vie en France t'avait offerte pas mal de liberté. Est-ce que tu peux être plus précis là-dessus? En quoi tu t'étais sentie libre en France comparé à la Tunisie?
Ben, en France, j'étais tout seul. Donc j'allais à mon rythme, je faisais les choses à mon rythme. Bon, il y avait... j'étais en prépa avec une chambre d'étudiants, bon, la cuisine, tout ce qui était frais, de bouffe, tout ça, enfin, tout l'aspect matériel de la vie était pris en main. Donc, je pouvais faire fonctionner mon esprit à fond et il y avait moins la vie autour de moi avec ce que ça a de sympa et de moins sympa, les petits camarades à l'école, etc., où c'est plus ou moins cool. Donc, la liberté que j'ai trouvée, c'était... d'être dans un endroit où, par rapport à tout ce brio dont on me... par rapport à ce qu'on attendait de moi, tout d'un coup, j'étais au bon endroit. Parce que j'étais dans la capitale, en train de faire une prépa, de prétendre travailler, enfin d'aller dans des grandes écoles, les fameuses grandes écoles. Donc j'étais dans le programme, quoi. Hein, je suivais la programmation, j'étais à l'étape, moins 2 ans, la grande école, la fameuse grande école qu'on s'attendait, à ce que tout le monde s'attendait à ce que je fasse. Alors, comme j'étais pas très matheux, bon, déjà, c'est dommage, il va pas faire le polytechnique, ce petit, ni les mines, ni les ponts, ni, mais il va faire une école de commerce. Donc, études qui ont été pilotées par mes parents, parce que moi, je ne savais pas ce que j'allais faire.
On parlait de liberté, etc. Et toi, justement, tu t'étais un peu autorisé à être vraiment toi-même en France. Et tu avais notamment reçu quelques remarques quand tu faisais tes études sur ta personnalité, ta possible orientation sexuelle. Est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi de ce côté que tu as connu au cours de tes études?
Oui, alors en fait, par rapport à ça, c'est évidemment un pan important de ma vie. La prise de conscience de mon homosexualité, ça a été progressif. Et en fait, c'est par à-coup que j'ai réalisé que. Donc tout à l'heure, on parlait de féminin. Aujourd'hui, avec toutes les questions de genre, etc., je ne souhaite pas m'étaler là-dessus parce que c'est un sujet qui a changé de nature. Mais à l'époque, il y avait les garçons, les filles. Les garçons aiment les filles aiment les garçons. Et le reste, c'est on n'en parle pas ou alors c'est pas bien. Donc moi, quand j'étais gamin, en fait, là où d'autres allaient jouer avec les petits copains et faire des choses très les gamins masculins, eh ben moi, j'ai passé beaucoup de temps avec une fille, une en particulier, qui était mon amie de cœur et on passait un temps dingue ensemble. Alors j'avais des petits camarades garçons aussi, mais c'était pas pareil. Donc en fait, j'ai développé une intimité avec tout ce monde-là qui a fait que petit à petit, je me retrouvais quand même chez le coiffeur de ma mère au lieu d'être chez le coiffeur de mon père. Mais petit à petit, en fait, ça a généré des moqueries et plus je prenais conscience de ce qu'était ma sexualité, plus ce qui m'était renvoyé ne collait pas. Et donc, j'ai eu des attaques de plus en plus fréquentes et je me suis un peu recroquevillé à l'intérieur de moi. Et ce personnage, éventuellement, si je m'en suis constitué un, c'était un personnage de « je suis comme tout le monde, je suis comme les autres copains ». Donc, ils me racontaient leurs histoires. Alors, j'ai rencontré telle fille, on s'est embrassé pendant 20 minutes, machin, etc. Et moi, je me disais « oulala, oulala, je suis de plus en plus déconnecté de tout ça ». Donc, je me suis cramponné à mes études, mais sur l'aspect relationnel, même si j'avais aucun problème relationnel parce qu'on voyait des gens, etc. Mais sur ce qui est de la vie amoureuse, toute mon adolescence, je l'ai passée entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il y avait ma vie intime très profonde et il y avait une sorte de surface à laquelle j'ai fini par croire. C'est-à-dire que je me cramponnais à l'idée qu'on se faisait de moi. Et quand je suis arrivé à Paris, bah, le truc a commencé à se fissurer. Et puis, quand on fait ce qu'on veut et qu'on voit qui on veut, bah, forcément, les choses qui étaient fortes en moi, bah, elles ont commencé à s'exprimer, mais pas ouvertement. Mais petit à petit, ça montait, ça montait, ça montait. Et en fait, entre l'âge de 13 ans, où j'ai commencé à avoir des retours de mes camarades m'alertant, littéralement comme si c'était une mise en garde. J'ai des copains qui m'ont mis en garde, je me souviens très très bien quand, qui m'ont dit « attention, tu aimes ceci, tu aimes cela, tu sais, tu pourrais devenir… » Alors je ne sais plus ce qu'ils avaient utilisé comme terme, parce qu'il y avait des articles dans Paris Match sur les homosexuels et sur les invertis, comme on disait, c'est un très joli mot, invertis, comme si on était inversé. Donc toute cette terminologie extrêmement néfaste, qui disait que voilà. Donc c'est vrai que la liberté, il y avait une liberté générale de bah, je suis seul dans la vie et je peux commencer à prendre mon destin en main, même si je suis sur des rails et que je n'ai pas nécessairement choisi. N'empêche que maintenant il y a un programme et donc on avance, on avance, on avance. Et la perspective d'être en école de commerce, bah, finalement, m'apparaissait comme très bien. Et puis j'ai commencé à sortir, il y a des amis qui m'ont fait rentrer dans des groupes pour des soirées, etc. Et puis ça allait de mieux en mieux. Mais les remarques dont tu parles, chaque fois je me disais, bon, bah, c'est un mauvais souvenir, et bim, ça ressortait. À un moment donné, on parlait de mes manières. Il y en a un jour qui m'a balancé en prépa, Bernard, il n'aime pas les filles. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont défendu en disant, qu'est-ce que c'est ? Non. Il n'aime pas les femmes, oui, il préfère les jeunes filles. Donc il s'est rattrapé aux branches. Mais en fait, à chaque fois, j'ai été outé de manière pas très violente, mais pas très sympathique, et de moins en moins sympathique avec le temps qui passait.
Et toi, tu m'avais dit une phrase que, en tout cas à cette époque-là, dans le contexte de la société à ce moment-là, c'est que si tu assumais vraiment qui t'étais, ça allait détruire ta vie. C'est ce que tu m'avais dit ?
Oui. Je t'ai dit effectivement que vers l'âge de 16-17 ans, j'ai senti qu'il y avait un différentiel en moi, une tension de plus en plus grande. Mais je sentais aussi que c'était tellement pas bienvenu dans ma famille qu'il y ait même la possibilité de quelque chose qui soit une déviation par rapport au chemin habituel, et non pas une déviance, mais une déviation ou quelque chose de différent. Eh bien, je me suis auto-persuadé que non, ce n'était pas possible, ça n'arriverait pas. Jusqu'à des pensées très morbides.
On poursuit sur tes études. Donc, tu es en école de commerce, malgré tout, tu vis ta vie d'étudiante et tu finis par obtenir ton diplôme. Et après ça, tu m'as dit que tu es partie faire un VSNE. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage et où est-ce que tu es allée donc, après avoir obtenu ton diplôme?
Alors, par rapport à l'évolution de mes études, je vais juste préciser quelque chose. C'est quand j'étais à l'ESCP, j'ai vécu à fond. J'ai découvert, une fois qu'on a passé le concours, là, tout d'un coup, une nouvelle vie s'est offerte à moi. Et tout le monde sait très bien, les gens qui font des écoles de commerce savent très bien qu'il y a le concours, une espèce de... Il y avait un dessin, une sorte de cartoon, là, enfin un dessin humoristique avec un saut à la perche, avec une barre hyper haut. Et puis derrière, il y a le coussin à l'école de commerce avec un beau coussin bien joli. Donc il faut ramer comme un dingue pour passer ces concours. Et une fois qu'on a passé le concours, après c'est youpi tralala. Bon, les écoles évidemment tentent à surtout dire mais non, c'est pas du tout ça, etc. Mais comparativement en termes d'efforts, c'est un peu ça. Donc moi, j'ai profité à fond de mes 3 années d'études à ESCP Europe, qui s'appelait donc le ESCP à l'époque. Et la dernière année, j'ai découvert qu'il y avait un programme d'échange vers le milieu de la deuxième année. J'ai compris qu'il y avait un programme d'échange qui permettait d'aller dans une université américaine. J'ai sauté dessus et j'ai dit à mes parents, bon, ben, je ne vais pas être à Paris, je vais aller aux États-Unis. Et là, j'ai pu aller prendre mes cours, avoir des équivalences, ce qui m'a permis... en fin d'études, d'avoir un double diplôme, donc dans la spécialité finance, compta, international, etc. Et ça, c'était Atlanta aux États-Unis, donc j'ai passé un an. Et quand j'étais à Atlanta aux États-Unis, je me suis dit, oulala, il y a le service militaire qui approche, comment je vais faire? Et comme moi, je ne suis pas du tout militariste et que ça m'a jamais... Ça m'a jamais plu, l'idée de... J'avais un père qui était très, très... très favorable à l'armée, mais c'était pas un facho, c'était juste que voilà, il aurait pu être un militaire, il respectait beaucoup l'institution, l'armée, il disait que c'était important, j'en conviens, c'est juste que moi, c'était pas mon truc. J'aimais pas les armes, et j'avais peur, littéralement, de cette promiscuité. Parce qu'en fait, comme j'étais pas à l'aise avec ma sexualité, en fait, là où peut-être aujourd'hui je changerais complètement d'attitude en disant bon, ok les gars, je suis gay, mais vous faites pas chier. À l'époque, j'avais peur qu'on découvre quelque chose de honteux et du coup que ce serait catastrophique pour moi et que je souffrirais, que je serais le souffre-douleur, le bouc émissaire, etc. Chose qui m'était déjà arrivée très largement, mais j'ai toujours su comment naviguer. Pour donner le change, sauf qu'à un moment, on ne peut plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté Paris, je me suis encore éloigné à nouveau de lieux où mes camarades commençaient à me renvoyer à nouveau que je n'étais pas comme eux. Et là-bas, je suis parti aux États-Unis et l'intérêt de parler anglais, c'est tout d'un coup le passeport pour un autre monde. Et j'ai toujours très bien parlé les langues étrangères, mais j'ai investi à mort sur l'anglais parce que plus je parlais anglais, plus j'étais autre. Tout simplement. Et j'ai discuté avec des gens qui enseignent l'anglais et ils sont complètement d'accord avec moi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle une langue étrangère, on a la possibilité de devenir autre. Et c'est très intéressant d'un point de vue du coaching parce que devenir autre, c'est faire un peu le tour de soi, c'est se voir sous un angle différent et du coup, on peut réenvisager les problèmes qu'on a sous un autre angle. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, ça m'a permis d'être autre. J'ai fréquenté beaucoup d'Asiatiques. J'avais un groupe d'amis, malais, grecs, philippins, thaïlandais, américains, venant des îles diverses et variées, vraiment toutes sortes de nationalités. Donc moi, pour moi, aller aux États-Unis, c'était encore une étape. Donc Tunis, Paris, Paris, Atlanta. Et quand j'étais aux États-Unis et que je me suis dit, il faut que j'ai un job. Enfin, il faut que j'ai une coopération, parce que je ne peux pas faire mon service militaire. J'ai envoyé des candidatures. Donc, et finalement, le ciel s'est entrouvert, et une entreprise m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour aller en Chine. Elle avait besoin d'un jeune coopérant, volontaire service national entreprise. Et donc, j'étais trop heureux de me précipiter. Donc, je suis tout de suite allé au siège, j'ai commencé à étudier le chinois. Et je suis parti à Shanghai, en passant par Pékin, où j'ai eu un premier stage d'intégration, et après j'étais en poste à Shanghai pendant 2 ans.
Donc cette entreprise, quand tu étais à Shanghai, combien de temps tu y es restée et qu'est-ce que tu faisais là-bas?
Alors, dans cette entreprise à Shanghai, donc j'étais dans une grande banque, c'était un job très de représentation, de coordination, d'accompagnement de projet. Donc, c'est des grosses boîtes françaises qui avaient envie de s'implanter en Chine. Donc, il fallait créer des relations entre les corporations chinoises, les banques chinoises, toutes sortes d'organisations destinées à canaliser le boulot, à canaliser les projets et des interfaces avec la Chine. Donc, pour des entreprises qui venaient investir. Alors, étant donné que je représentais une banque française, ben, j'accompagnais des patrons d'entreprise. Donc, j'ai vu des patrons de très grosses boîtes qui venaient me voir, moi, jeune de 22 ans. Et il y avait un conseiller chinois à la banque, c'était comme ça que ça marchait. Un conseiller chinois bien connecté avec toutes sortes de gens. Donc, je rappelle qu'on est en 86, donc 2 ans après les 4 modernisations de Deng Xiaoping. Et donc, c'était tout un travail un peu diplomatique, un peu comme un poste d'expansion économique. Donc moi, il y avait un petit côté assimilé diplomate. D'ailleurs, j'avais plein d'amis qui étaient dans ce milieu-là. Et des gens jeunes comme moi à Shanghai, français à l'époque, j'étais juste phosphorescente. C'est-à-dire que des gens comme moi, il y avait très, très, très peu. Donc c'était très exaltant parce que j'étais payé, je jouissais paradoxalement d'une très grande liberté et surtout je découvrais la Chine, ça me fascinait. J'avais toujours été fasciné petit par la peinture chinoise et les objets chinois. Et là, j'étais en Chine. Donc, j'ai découvert tout ça avec une gourmandise folle. Et j'ai passé 2 années extraordinaires où j'ai rencontré plein de gens. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et sur la Chine, et sur le système capitaliste et le système communiste, et sur le Tibet, et tout, et tout, et tout.
et qu'est-ce qui a fait finalement que tu as voulu arrêter ta carrière là-dedans, dans cette entreprise ? Qu'est-ce qui te plaisait plus ?
Alors en fait, j'ai toujours une obsession dans la vie, c'est d'avoir un métier, et un métier que je possède profondément en moi, sans avoir besoin de livres ou de choses. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux avoir avec moi ? Si on prend un potier, par exemple, ben, il faut qu'il fabrique son tour, ok, mais même, il peut même travailler son tour. Il va prendre ses mains, de la terre, et il va façonner quelque chose. Parfois, il y a des potiers qui font des trucs extraordinaires juste avec de la terre et leurs mains. Mais moi, ça, c'est mon rêve. C'est-à-dire d'être capable de créer quelque chose avec mes mains. Donc, pourquoi j'ai quitté le domaine de la finance? C'est parce qu'il y avait au moins 2 raisons. D'une part, c'est que le job où j'étais, c'était un job de représentation. Et donc, au bout d'un moment, bah, tout ce que j'avais appris en finance, très sophistiqué, soit je partais à travailler pour Goldman Sachs et Salomon Brothers, ou bien que je travaillais pour une banque de retail, ou dans les grandes sphères de la stratégie financière. Ou alors, ben, c'était pas à ma place. Et en fait, je trouvais que dans ce bureau de représentation, alors que j'avais quitté les États-Unis où j'étais à fond sur la finance marché, je me suis rendu compte qu'en fait, tout d'un coup, c'était complètement un autre monde et que je m'étais périmé, en fait. Techniquement, au fur et à mesure, j'avais oublié. Mais plus je découvrais autre chose, plus je me rendais compte qu'en fait, je n'étais pas nécessairement fait pour ça. Donc, il y a une espèce de prise de conscience progressive, un regret de devoir renoncer à cette technicité que j'avais choisi d'avoir, parce que quand j'étais en école de commerce, je me suis dit, il faut absolument que j'ai une spécialité. Donc, je me suis focalisé sur la gestion, la compta, etc. J'aurais pu devenir avocat. Souvent, les gens pensaient que j'allais devenir juriste. Parce qu'à chaque fois, c'est des métiers de savoir. Il faut savoir des choses. Quand on est médecin, on doit savoir des choses. Donc, un, il n'y avait plus besoin... cette technicité n'était pas là, donc je m'étais un peu périmé techniquement. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que si j'allais que dans la technique, il y avait quelque chose qui allait, de parler d'argent tout le temps, quelque chose allait me manquer, c'était la dimension humaine, la dimension relationnelle. Et j'ai réalisé que ce n'était pas ça, donc je suis parti faire un long trip de 6 mois. Après être allé au Tibet, qui a été un moment d'illumination littéralement, je fais Lhasa Katmandou en jeep pendant 15 jours. Après, j'ai terminé par un trekking au Népal, à côté des Annapurna. Et là, je me suis dit, ouais, bon, ok, il va falloir que je change quelque chose dans ma vie. Ça ne peut plus durer comme ça.
Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.